Tous, bienvenue dans La Locale, le journal d'information locale de Radio BLV qui a lieu tous les jours du mardi au jeudi à 12h15. Je suis toute seule aujourd'hui, vous êtes avec Karina. Sylvie s'est absentée, vous la retrouverez demain. Nous sommes le mercredi 6 janvier. Bienvenue dans cette émission, c'est une journée de grand froid et d'ailleurs dans une semaine de grand froid et j'espère qu'elle saura vous apporter un petit peu de chaleur, même si au programme de cette émission, on ne va pas forcément parler que de choses très chaleureuses. Alors, au sommaire de cette petite demi-heure, vous saurez tout sur la réforme de l'aide au logement avec Aurélia Reynaud de la CAF qui nous expliquera cette réforme dans les détails. Je partagerai avec vous quelques infos locales. Et pour finir, vous entendrez le docteur Marianne Artus qui présentera le CEGID, le Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic de Valence. On parlera ensemble de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Et on commence tout de suite par Aurélia Reynaud de la CAF pour parler de cette fameuse réforme. Bonjour Aurélia.
Bonjour Karina.
Donc, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé sur l'antenne de Radio BLV, il y a eu des changements à la CAF.
Oui, tout à fait. Depuis le 1er janvier, donc du coup, l'aide au logement a évolué et nous avons accueilli le 4 janvier la réforme des aides au logement dans notre système.
Et donc, en quoi est-ce qu'elle consiste, cette réforme de l'aide au logement ?
Donc, la réforme de l'aide au logement, c'est pour calculer le droit au plus près de la situation de l'allocataire, puisque auparavant, lorsque l'allocataire faisait une demande d'aide au logement, en 2020, nous prenions les ressources que l'allocataire avait perçues en 2018. Mais maintenant, avec la réforme de l'aide au logement, on prend les ressources de l'allocataire des 3 derniers mois pour lui payer les 3 mois suivants. Alors bien entendu, selon la nature des ressources, on peut prendre les ressources à M-1 comme par exemple les pensions alimentaires ou à M-2 pour d'autres ressources que l'allocataire aurait perçues. Mais ce qui est vraiment plus simple pour l'allocataire, c'est qu'on fait une récupération automatique de ces ressources, soit auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, hein, c'est-à-dire auprès du Centre des Impôts, soit on les récupère auprès des différents organismes qui sont à notre disposition quand on est salarié ou quand on est au chômage. Voilà.
Donc vous allez vous-même chercher les ressources des allocataires.
Alors c'est une injection automatique. Et puis lorsqu'on n'a pas réussi à récupérer les ressources, eh bien sur son compte CAF, l'allocataire voit une alerte qui lui demande de déclarer les ressources dont nous avons besoin parce que nous n'avons pas réussi à les récupérer pour qu'il nous les communique lui. Pourquoi on ne peut pas les avoir récupérées ? Ben, si par exemple l'allocataire a déposé sa déclaration de revenus tardivement auprès du Centre des Impôts, eh bien, lorsque nous, on l'aura demandé au Centre des Impôts, ben, ils ne l'auront pas encore enregistré. Si on s'est séparé en 2020, eh bien, la déclaration de ressources 2020 n'a pas encore été faite. Donc, les pensions alimentaires versées ou reçues ne sont pas encore déclarées. Donc, c'est pour ça qu'on va faire appel à l'allocataire par le biais de son compte CAF.fr pour qu'il nous déclare les ressources manquantes.
Donc pour résumer, l'allocataire n'a rien à déclarer tant qu'on ne lui en fait pas une demande précise.
Exactement. La seule chose que l'allocataire a fait s'il n'a jamais fait de demande d'aide au logement, c'est de se rendre sur son compte CAF.fr s'il en a pour une autre prestation ou d'aller sur le caf.fr rubrique non allocataire et faire une demande d'aide au logement s'il pense qu'il peut avoir droit à l'aide au logement. Du coup, avant de faire la demande, ce qu'il peut faire, c'est faire une simulation pour voir s'il peut avoir droit ou non à l'aide au logement. Je précise toujours qu'une simulation reste une simulation. C'est-à-dire que on ne peut pas garantir le montant de la simulation, puisque nous, lorsque l'allocataire fait la demande, on récupère les ressources auprès des différents organismes et avec ces ressources-là, on attribue un droit. Si l'allocataire, dans sa simulation, il oublie malheureusement de donner un montant, eh bien le droit va être plus élevé. Ou s'il en donne trop, c'est-à-dire que il donne le montant sans déduire les frais réels alors qu'il avait des frais réels à déduire, on va donner un montant moins important dans la simulation.
Bien
Donc
sûr.
C'est important important lorsqu'on fait la simulation de donner les vrais éléments ou sinon de faire la demande si vraiment on pense qu'on peut avoir un droit.
Et donc cette réforme, elle a quoi comme objectif ?
Alors, l'objectif de la réforme, c'est de permettre aux allocataires que tout soit fait en dématérialisé. De deux, que ce soit plus simple pour l'allocataire qui n'a pas forcément besoin de se rendre en CAF. Et troisièmement, d'avoir sa situation ajustée au plus près. Parce que si on prend les ressources des 2-3 derniers mois et qu'on a une baisse de revenus, on n'a pas besoin d'attendre un an pour voir son aide au logement revalorisée. C'est le même principe que ce qu'on fait pour le revenu de solidarité active, connu plus généralement sous le nom de RSA, ou la prime d'activité.
Mais justement, comment ça se fait qu'avant, il y avait un tel décalage entre la déclaration des revenus et quand on perçoit...
Parce que toutes les prestations de la caisse sont calculées avec les revenus N-2 pour l'année en cours. Que ce soit les allocations familiales, que ce soit le complément familial, on se sert des ressources à N-2. Ça a toujours été, pour les CAF, on prenait les ressources de 2 ans en arrière. On a commencé par ajuster en année civile, puisqu'avant la récupération des ressources se faisait au 1er juillet. Maintenant, on change d'année civile au 1er janvier, donc on change d'année de ressources au 1er janvier. Et on faisait comme ça pour le RSA et la prime d'activité. Le RSA, qui je précise, est un minima social. Pour ajuster la situation au plus proche de l'allocataire, c'est ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, on le fait pour les aides au logement, parce que si l'allocataire il a une perte de revenus, il en aura besoin rapidement de l'aide au logement. Puis si ensuite il a une hausse de revenus parce qu'il a trouvé du travail, changé de travail, ou pour X ou X raison, il a une hausse de revenus, ça permet l'aide au logement, il en aura plus besoin. Donc nous, on arrêtera de verser.
Donc c'est plus proche des besoins immédiats des nouveaux allocataires.
Voilà, c'est plus proche des besoins immédiats et en plus, au vu du contexte aujourd'hui que nous rencontrons, ça permet vraiment aux allocataires d'avoir la situation au plus juste. Parce que finalement, les allocataires qui auraient dû attendre 2 ans, comme on faisait précédemment, puisqu'en 2019, on aurait pris les ressources de 2019, mais en 2019, on n'a pas vécu la période de crise qu'on vit actuellement, ça nous permet d'avoir la situation au plus proche des allocataires et de ne pas prendre sur les 2 dernières années.
Oui, ça doit tout changer pour énormément de personnes en ce moment, effectivement.
Voilà. Et puis en plus, c'est vraiment tout automatique. C'est vraiment très important de le rappeler parce que le fait que ce soit tout automatique et qu'on récupère la totalité des ressources dont on a besoin, sauf pour certaines personnes pour qui on n'aurait pas réussi à récupérer les ressources en automatique, ça permet pour un grand nombre de nos allocataires de ne plus avoir de démarches à faire pour les ressources qu'on n'arriverait pas à récupérer. Et ça évite aussi ce risque d'erreur quand on fait la déclaration où on se dit, tiens, sur mon bulletin de salaire, qu'est-ce qu'il faut que je déclare ? Est-ce qu'il faut que je déclare que j'ai touché un acompte ? Est-ce qu'il faut que je déclare que j'ai eu des titres restaurant ? Est-ce qu'il faut que je déclare ? Et tout ça permet à l'allocataire, lui, de ne pas avoir d'erreur et qu'on lui paye le bon droit au bon moment.
Et je me demandais aussi pourquoi ce n'est pas la même façon de déclarer ses revenus entre le RSA et l'APL, parce que le RSA, c'est tous les 3 mois, l'allocataire va lui-même déclarer ses revenus à la CAF. Pourquoi c'est pas une façon de faire unique pour toutes les aides?
Alors, une personne qui perçoit le RSA, généralement, dans la plupart des cas, c'est qu'elle n'a pas de revenus. Du coup, si elle n'a pas de revenus, nous, on n'a rien à récupérer. voyez.
D'accord.
Donc du coup, il est important qu'elle, elle puisse faire sa déclaration. Et ce qui se passe aussi, c'est que si une personne, à un moment, elle n'a pas de revenus, mais qu'elle trouve ensuite une formation professionnelle, un emploi, ou qu'elle est indemnisée par Pôle emploi au titre de l'aide au retour à l'emploi ou de l'allocation de solidarité spécifique, il est tout à fait possible que, suite à un report de droit ou à ce que le dossier, ben, les papiers n'ont pas été donnés ou traités en temps et en heure selon ce qui a pu se passer, ça génère un certain délai pour la locataire qui n'a pas de ressources à ce moment-là et qui a besoin du RSA, mais ensuite il va y ouvrir droit et c'est à lui ça de nous en informer.
D'accord.
Donc c'est pour ça que la déclaration au titre du RSA, c'est important que la locataire puisse la faire et puisse nous dire si oui ou non il a des revenus.
Merci beaucoup Aurélia. Est-ce que vous auriez un message à transmettre aux auditrices ou auditeurs de Radio BLV?
Oui, alors justement, je profite de ce passage aujourd'hui avec vous Karina pour préciser plusieurs petites choses. Depuis, il est précisé sur notre site caf.fr que le site est en maintenance depuis le 3 janvier et aujourd'hui, quand on essaye de se connecter, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'on a une grande affluence de personnes puisque quand on change d'année, beaucoup de gens essayent de se connecter. Du coup, pas de panique, ça va revenir. Vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer. L'accès au caf.fr va revenir, c'est que simplement nous sommes très nombreux à aller dessus et du coup, bah, le site est un peu saturé, mais ça va revenir, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. Et vous souhaitez être accompagné parce que vous n'avez pas la possibilité de répondre, vous voyez l'alerte sur votre compte, sur votre application mobile, mais vous n'avez pas la possibilité d'y répondre par le biais d'un ordinateur parce qu'il vous faut joindre un document qui est uniquement, que vous avez uniquement papier ou autre, vous pouvez vous rendre dans les points numériques CAF ou dans les maisons France Service ou les MSAP ou les centres communaux d'action sociale. Il ne faut pas hésiter à aller dans tous ces organismes qui peuvent vous accompagner dans vos démarches si vous n'êtes pas outillé pour pouvoir répondre à ce qu'on vous demande sur le CAF.fr. Puisque nous, à la CAF, vous pouvez venir déposer des documents, mais si vous voulez faire directement donner les informations directement par le biais de votre compte CAF.fr, vous pouvez vous rendre dans tous ces organismes-là qui sont habilités pour vous accompagner ou dans les points numériques CAF qui ont des ordinateurs à disposition pour que vous puissiez faire vos démarches. Je pense que c'est très important de le rappeler, surtout dans le contexte d'aujourd'hui où on ne peut pas recevoir tout le monde par rapport à l'épidémie de la Covid-19.
Effectivement, et on ne sait pas toujours qu'on peut trouver de l'aide dans d'autres endroits
voilà,
que directement à la CAF.
Il n'y a pas qu'à la CAF, hein, puisque sur tout le territoire drômois, il y a des points numériques CAF et des maisons France Service, des maisons de services d'accueil au public, des centres communaux d'action sociale qui sont outillés pour ça.
Ben merci beaucoup Aurélia et peut-être alors à une prochaine pour une prochaine réforme de la CAF.
Très bien, merci Karina.
Et quelques infos locales pour continuer. En fait, une info locale pour être précise en ce moment, en début d'année, on n'a encore pas tellement de choses qui s'organisent, ça vient progressivement. Mais c'est une info de qualité, chères auditrices et auditeurs. Sachez qu'il existe un concours d'écriture auquel vous pouvez participer, mais également des ateliers d'écriture pour en apprendre plus sur l'écriture si vous avez envie. C'est organisé par le réseau Cap sur le Rhône. Donc, il organise ce concours d'écriture qui s'appelle « Dans les courants du fleuve, sur la vie au bord du Rhône ou de la Saône, hier, aujourd'hui et demain. Comment penser dans le temps notre relation au fleuve, à sa biodiversité, son environnement, à nos usages, aux enjeux contemporains et à venir ?» Sur les ateliers, donc il y a des ateliers qui sont organisés dans plusieurs lycées et médiathèques, une vingtaine d'ateliers en Ventoux, au bord du Rhône ou de la Saône. Chaque atelier débute par un temps court consacré à la sensibilisation à l'univers du fleuve et ils sont ensuite conduits par l'intervenant auteur. Nombre de personnes participant aux ateliers, donc entre 10 et 15 personnes ou une classe. Et la durée des ateliers est de 3 heures. Ils sont gratuits et vous pouvez participer sur réservation. Si vous souhaitez participer au concours, sachez qu'il se termine le 31 mars 2021 à minuit. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez participer soit aux ateliers, soit au concours, soit aux deux. Donc, pour reprendre par rapport au concours, le premier prix pour chaque catégorie est de 300 euros, accompagné d'un coffret panier découverte du recueil publié aux éditions de La Passe du Vent. Donc, pour vous inscrire, la fiche d'inscription est à télécharger sur le site du concours. L'inscription est jusqu'au 15 mars 2021. Il y a deux catégories de participants. Si vous avez entre 14 et 18 ans, vous pouvez participer sur le côté forme poétique, donc prose poétique, rime, haïku, etc., ou écrit journalistique. Et si vous êtes donc adulte, plus de 18 ans, pareil, vous pouvez participer dans la catégorie forme poétique, prose poétique, rime, haïku ou autre. Ou alors sur une forme narrative plus complexe, une nouvelle, par exemple polar, science-fiction, thriller, etc. Pourquoi pas un conte, pourquoi pas aussi une légende. Voilà, vous pouvez donc retrouver toutes les informations et la fiche d'inscription sur le site internet capsurlerhone.fr/atelier-concours-d'écriture. Et je propose maintenant de parler du Cégide. Le Cégide, c'est un endroit que l'on ne connaît pas forcément et à tort, parce que c'est un endroit gratuit et anonyme qui nous permet de se faire dépister. Donc on peut y aller régulièrement pour savoir si on n'a pas été touché par des maladies sexuellement transmissibles. Le Cégide se trouve à l'hôpital de Valence. C'est le seul Cégide pour toute la Drôme. Donc voilà, profitez-en si vous passez par Valence ou si vous y habitez, c'est l'occasion. On écoute tout de suite Marie-Anne Artus présenter le Cégide. Bonjour Marie-Anne Artus.
Bonjour.
Vous êtes docteur au Cégide ?
Oui, c'est ça, exactement.
Donc le Cégide...
Médecin généraliste au Cégide de Valence.
Voilà, le Cégide donc, se situe à l'hôpital de Valence. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par expliquer à nos auditrices et auditeurs de quoi il s'agit ?
Alors le Cégide, c'est en fait une abréviation hein, du Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic des maladies, des infections sexuellement transmissibles. Donc il a été ce Cégide, les Cégides en France ont été créés en 2015 et notre mission c'est de prendre en charge des personnes à potentiellement risque d'infection sexuellement transmissible et une mission qui s'élargit au fait de si on découvre une pathologie, une infection, on peut proposer le traitement, le suivi, le contrôle, proposer le traitement aux partenaires. Et ça, c'est la mission première des dépistages, entre autres les IST, les infections sexuellement transmissibles. C'est bien sûr le VIH, le virus du sida. Mm. C'est aussi le virus des hépatites, hépatite B, hépatite C. Ça peut être aussi des microbes, entre autres le chlamydia, qui donne une maladie à signes très estompés. Les personnes peuvent être porteuses sans avoir de signes et sans se rendre compte de ce portage du microbe. Et par contre, bien sûr, c'est des microbes qui peuvent être transmissibles à leurs partenaires.
D'où l'intérêt de se faire dépister régulièrement pour savoir si on
voilà,
est porteur.
Voilà, exactement. Exactement. Hein, en sachant qu'en plus, cette chlamydia qui est un microbe donc qui ne donne pas des signes très, très importants, à long terme pour quelqu'un, surtout les jeunes filles qui peuvent être porteuses sans s'en rendre compte. À long terme, on s'est aperçu que ça pouvait quelquefois être responsable de problèmes pour tomber enceinte, pour avoir une grossesse normale. Donc, en matière de santé publique, c'est important aussi de prévenir des maladies plus graves, des complications qui peuvent être plus graves dans le temps, quoi, plusieurs années après.
Et donc, quand venir chez vous pour se faire dépister? À quel moment est-ce qu'on doit
dans
venir?
Dans la vie, il y a plusieurs moments quand même importants au niveau de la santé. Ben, quand on débute, par exemple, sa sexualité, pour les couples qui viennent de se rencontrer, c'est assez classique et c'est très intéressant de venir ensemble au moment où on commence à avoir une relation assez sérieuse et, par exemple, où on a envie de se libérer du préservatif. Hein, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Déjà de pouvoir en discuter avec son partenaire et trouver quelqu'un chez nous à qui parler, poser des questions, et puis avoir son test en commun fait en même temps. Bon, ben, si tout va bien, on peut aussi parler de contraception à ce moment-là, puisque le préservatif peut être un moyen de contraception. Mais si on décide de ne plus utiliser de préservatif et qu'on ne veut pas tomber enceinte, évidemment, il faut... Pour un moyen de contraception. Donc ça, c'est vraiment une partie de notre population assez intéressante. Après, on a des personnes qui ont pris des risques, c'est-à-dire des accidents de préservatif, des soirées où il n'y a pas eu mise de préservatif. Et là, dans ce cas-là, c'est intéressant aussi de venir nous voir, qu'on puisse leur faire un dépistage, leur dire aussi les délais pour trouver ou non des potentielles infections transmissibles.
Oui, peut-être qu'on peut les rappeler aussi à l'antenne.
Voilà, parce que bien sûr, par exemple, pour ce qui est du virus du sida, on ne peut pas vous dire le lendemain ou le surlendemain que vous avez été contaminé ou pas. Il faut attendre un certain délai pour que nos tests soient... d'être négatif. Il faut attendre 6 semaines pour le VIH.
D'accord.
Voilà. Par contre, les microbes, on peut les trouver la plupart du temps au 10e jour ou même au 7e jour. Donc, ce qui est chlamydia, gonocoque, même la syphilis, si c'est quand même très très rare et assez exceptionnel, on peut le découvrir plus vite.
Et vous devez être du coup en première ligne pour voir l'évolution de ces maladies localement. Comment est-ce que ça évolue? Est-ce qu'elles disparaissent ou est-ce qu'au contraire, il y en a qui ressurgissent?
Ben, sur les quelques dernières années, les 10 dernières années, il y a eu des maladies qui ont un peu augmenté, et même quelquefois beaucoup augmenté, mais dans certaines populations un peu particulières, on a vu de nouveau des syphilis, par exemple, qui n'existaient quasiment plus. Donc, mais ça se traite avec des antibiotiques, donc c'est vraiment très important de savoir qu'on est porteur pour être traité et pour justement faire baisser les chiffres des nouvelles contaminations. Hein, donc la syphilis, plus dans le milieu homosexuel masculin, mais là ça commence un peu à diminuer. Et le chlamydia aussi, là c'est plus chez les jeunes filles, de 20 à 25 ans, on va dire, 27 ans, où puisqu'on les cherche, on en trouve. Donc évidemment, on a tendance à, ça a tendance à avoir des chiffres plus importants hein, au niveau de la découverte.
Est-ce que
ça se soigne, donc on espère que ça va diminuer.
Est-ce que le confinement a eu un impact aussi sur ces maladies?
Alors le confinement, ben, on a été impacté parce que déjà on n'a pas pu voir beaucoup de monde. Hein. Ça a été les consultations en présentiel ont été stoppées pendant un mois. Donc on faisait des consultations par téléphone et c'est vrai que c'est moins facile, on va dire. Il y a eu probablement moins de contaminations pendant le premier confinement. Mais on n'a pas encore l'idée vraiment de ce qui s'est passé et probablement il y aura un rebond à la fin du confinement. Mais là, c'est trop tôt. On est encore en plein dedans. On n'a pas vraiment l'évolution. Hein.
Et vous, vous...
On sent bien que certaines personnes, oui, ont été sûrement moins à risque, on va dire, ont pris moins de risques. Mais voilà, pour l'instant, on ne peut pas vous donner vraiment de chiffres là-dessus.
Et vous, au CEGIT, vous continuez de travailler même pendant le confinement ?
Ah là, actuellement, on a repris. Alors, le seul changement qu'il y a eu vraiment par rapport à la façon dont on travaillait avant, c'est qu'il faut téléphoner pour prendre un rendez-vous.
D'accord.
Pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans la salle d'attente. C'est vrai qu'avant, sans rendez-vous, il y avait certains lundis soirs où il y avait vraiment 10-12 personnes qui pouvaient attendre. Ça, c'est pas possible avec le risque du virus, de la Covid. Donc, on essaye de faire en sorte que les gens ne se croisent pas ou en tout cas restent pas dans la même pièce trop longtemps. Donc, c'est sur rendez-vous. On a un numéro de téléphone, un 06.
Oui.
Et oui, vous voulez le...
Je l'ai sous les yeux, 06 37 11 71 90 pour prendre rendez-vous.
Voilà, exactement. Alors, il faut savoir aussi que comme on est une petite équipe, hein, on est deux médecins, ça ne fait pas un temps plein tout à fait à deux. On est ouvert en fait les lundis, les mardis et les vendredis. Voilà, donc et du coup le téléphone et on prend les rendez-vous que ces jours-là aussi. Hein. C'est lundi, mardi et vendredi.
Et on rappelle que c'est gratuit et anonyme.
C'est gratuit et anonyme, c'est-à-dire qu'il y a un numéro d'anonymat qui est donné à la personne. Et c'est vrai aussi qu'avant, on leur demandait de repasser, prendre leurs résultats, comme ça on pouvait de nouveau discuter en fonction des résultats. Là, actuellement, avec le problème du virus de la Covid, on téléphone aux personnes leurs résultats et s'ils ont besoin ou s'ils ont envie, ils viennent nous voir avec ce résultat.
Et comment est-ce que ça se passe pour une personne qui viendrait se faire dépister ?
Alors, il faut donc prendre rendez-vous. Une fois qu'il y a un rendez-vous qui est pris, notre lieu de travail se situe dans un bâtiment qui est au fond du grand parking du centre hospitalier. Donc, ça, c'est le bâtiment de gériatrie. Et on est juste à côté du centre de planification familiale du centre hospitalier. Hein, donc on travaille, on est juste à côté, dans un petit bâtiment qui est au fond du parking après les urgences. Donc on se présente à l'heure indiquée. Et d'abord, on est reçu par la secrétaire qui monte le dossier anonyme. Hein. Alors là, actuellement, c'est pareil, il faut dire si on n'a aucun signe de maladie Covid, on peut venir. S'il y a un signe quelconque qui fait penser qu'on peut peut-être être porteur de la Covid, on vous dira plutôt de rester chez vous.
Ça va être ça.
Ouais. Alors après, une fois que bon, vous n'avez pas de fièvre, vous n'êtes pas malade, etc., on vous monte un dossier, c'est-à-dire qu'en fait, on vous pose quelques questions qui seront intégrées à un logiciel dans l'ordinateur, mais sous le numéro, donc c'est complètement anonyme, un numéro de passage. Ensuite, vous voyez le médecin, donc le mardi et le lundi, c'est moi, et le vendredi, c'est ma collègue, le docteur Rousset, où il y a une sorte de consultation pour évaluer surtout les risques, reprendre un peu les connaissances de base sur les maladies sexuellement transmissibles. Et par la suite, il y a une prise de sang pour connaître les sérologies, c'est-à-dire le portage ou non des maladies. Donc il y a une prise de sang, il peut y avoir une analyse d'urine. Pour les garçons, le chlamydia se fait en faisant une analyse d'urine. Et on a des prélèvements ce sont des auto-prélèvements, c'est-à-dire que c'est la personne elle-même qui fait le prélèvement avec une sorte d'écouvillon, par exemple au niveau vaginal pour les filles, pour le chlamydia, au niveau de la gorge pour le gonocoque. Enfin, il y a plusieurs prélèvements qui peuvent être faits, mais c'est toujours des auto-prélèvements.
D'accord. Et les résultats arrivent au bout de combien de temps ?
Pour les virus, le résultat arrive dans la semaine d'après, c'est-à-dire qu'en général, si on est venu un lundi, le lundi ou le mardi suivant, on vous téléphone le résultat. Pour les chlamydia, quelquefois, c'est un petit peu plus long, puisque c'est une technique un peu plus pointue. C'est la même technique que pour le virus de la Covid. Et c'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps, surtout en ce moment, puisque le virus de la Covid prend beaucoup de place au niveau des laboratoires actuellement. Mais en général, au bout d'une dizaine de jours, on a déjà les résultats.
Et pourquoi avez-vous choisi, vous personnellement, de travailler pour le Cegid?
Alors, en fait, j'ai suivi un peu l'évolution. J'ai travaillé depuis plusieurs années en centre de dépistage pour le VIH. Moi, je suis arrivée au moment, quand j'ai commencé mon travail de médecin généraliste, c'était à peu près au moment où on commençait à avoir des cas de VIH en France. Donc, j'ai toujours suivi cette pathologie. Et le dépistage, c'est très important. C'est toujours très important, mais il y a eu une époque où vraiment c'était vraiment nécessaire et j'ai fait du dépistage depuis du VIH depuis 25 ans, on va dire. Voilà. Donc c'est vrai que c'est venu surtout du VIH et des hépatites aussi, où on a eu quelque chose d'assez formidable ces derniers temps. C'est un traitement qui guérit pratiquement tout le monde de l'hépatite C. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est que dépister une hépatite C, c'est quasiment être sûr qu'après, on va être guéri après le traitement qui est bien supporté.
Effectivement, c'est une bonne nouvelle.
Ouais. D'autant que les traitements antérieurs étaient vraiment difficiles, compliqués, longs, et ils ne marchaient pas à chaque fois à 100%, donc... Ça, c'est pour ça qu'on peut être optimiste et je pense que même si c'est des virus, on peut y arriver.
Merci beaucoup pour toutes ces explications et pour votre rôle qui est vraiment très important pour tout notre territoire. Vous êtes le seul endroit pour se faire dépister gratuitement, Andrew ?
Voilà. Enfin non, on a une antenne. On a une antenne au XAPA de Priva.
D'accord.
Donc c'est le personnel du XAPA. Il y a le médecin, infirmier qui prennent en charge les personnes addictes et qui font leur ils ont la possibilité de faire des tests de dépistage mais pour le Cegid, antenne Cegid.
D'accord.
Et il faut aussi j'ai une petite consultation le jeudi après-midi, mais qui pour l'instant peut pas être gratuite ni anonyme puisque c'est dans le système hospitalier, mais je peux faire des dépistages dans ces conditions.
Et on peut rappeler aussi que le Cegid, c'est donc des conseils aussi sur la contraception, des vaccinations.
Voilà. Il y a la vaccination du papillomavirus. Alors pour certaines populations, c'est pas pour tout le monde. Il y a des informations sur la vie sexuelle, il y a de la prévention, il y a de la détection aussi et l'aide surtout aux personnes qui sont victimes de violences aussi au niveau sexuel. Pour des personnes qui sont dans la précarité, on travaille avec certains foyers de personnes migrantes qui sont vraiment démunies et on les aide de notre mieux. On essaye de faire en sorte qu'ils aient la prévention la plus efficace possible en matière de santé sexuelle également.
Merci beaucoup, Marie-Anne Artis, pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Et avec Sylvie, on a décidé de finir cette émission à chaque fois par une bonne nouvelle. Et comme le mercredi, c'est un petit peu la journée de l'environnement avec l'émission La Radio dans le Pédalo qu'on a à 11h, je vous propose une bonne nouvelle environnementale de 2020. Sachez que la crise du coronavirus n'a pas eu que des mauvaises conséquences pour l'environnement. Il y en a plusieurs qui sont positives. Et là, j'aimerais vous parler des espèces qui étaient en voie de disparition et qui, pour le coup, ne nous emballons pas, c'est pas qu'elles ne le sont plus, mais c'est qu'en tout cas, il y a eu du progrès à ce niveau-là. Le braconnage des rhinocéros, par exemple, a fortement diminué. Les animaux sauvages sont les grands gagnants de cette pandémie. Et en Afrique du Sud, par exemple, les restrictions sanitaires mises en place ont permis de faire diminuer le braconnage des rhinocéros de 53%. Ainsi, 166 individus ont été abattus lors du premier semestre de 2020 contre 316 au cours des 6 premiers mois de 2019. Deux pandas en captivité aussi se sont enfin accouplés. Il aura fallu la pandémie pour que ça se produise. Ils semblaient désintéressés l'un de l'autre pendant pas moins de 10 ans. Deux pandas géants du zoo Ocean Park de Hong Kong ont fini par s'accoupler en pleine crise du coronavirus, sans doute grâce à une tranquillité absolue en l'absence de visiteurs. Un événement très satisfaisant pour les soigneurs du parc animalier qui espèrent voir l'idylle se concrétiser par l'arrivée prochaine d'un bébé panda. Et puis, malheureusement, la star du coronavirus, le pangolin, lui aussi, bonne nouvelle, il a été finalement retiré de la médecine traditionnelle chinoise. Et oui, c'est officiel. Donc, c'était l'espèce quand même, une des espèces les plus menacées au monde. Et il a été retiré de cette fameuse liste de la pharmacopée chinoise, qui est en fait le recueil officiel des médicaments traditionnels, après son identification comme intermédiaire potentiel dans la crise du Covid-19. C'est la fin de cette locale. La suite des programmes de la journée. À 13h, vous pourrez écouter Innove Jeunes. C'est le portrait de jeunes qui réalisent des projets dans la Drôme. Cet épisode sera sur le projet Skate Park qui a été réalisé par 4 jeunes de Saint-Paul-Trois-Châteaux, Maxence, Simon, Théo et Hugo, accompagnés par Samia du Centre socioculturel Mosaïque. Ils ont décidé d'organiser une jam pour inciter la mairie du village à rénover leur skate park, de plus en plus détérioré par le temps. À 17h, vous pourrez réécouter la radio dans le pédalo de ce matin. On était avec Laurent et Maude et on a parlé du Mont Vanille dans le Royan qui est menacé par un projet de carrière. À 18h, vous pourrez réécouter la locale. À 19h, ce sera l'émission Les voisins d'à côté, musique et fiction. À 20h30, vous retrouverez L'Oreille électrique, le magazine pop-rock de Radio BLV. Thierry était en vacances les deux dernières semaines et il fera son grand retour. À demain pour une locale avec Sylvie que je salue si jamais elle écoute dans sa voiture. À très bientôt.